Il est 22h à Paris, 21h en temps universel, minuit à Moscou et Damas. Vous êtes sur RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, 11 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités ont déjà trouvé un accord avec la Jordanie pour la reprise des échanges commerciaux. Notre correspondant a pu se rendre au poste frontière. Cette question également qui a été posée à Vladimir Poutine aujourd'hui lors de sa conférence de presse annuelle. Quel avenir pour les bases militaires russes en Syrie? Au sommaire également, Emmanuel Macron à Mayotte jusqu'à demain, 5 jours après le passage du cyclone Chido, dont le bilan très provisoire fait toujours état de 31 morts. Le chef de l'État interpellé par des Mahorais. Et puis, les yeux du monde étaient braqués sur Avignon aujourd'hui pour l'annonce du verdict au procès des viols de Mazan. Les 51 accusés ont tous été reconnus coupables. En Syrie, 11 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Damas, en Syrie, pour la démocratie et les droits des femmes. Un rassemblement inédit depuis l'arrivée au pouvoir des rebelles, et il ne leur aura fallu que quelques jours aussi pour qu'un accord soit conclu avec la Jordanie pour la reprise des échanges commerciaux entre les deux pays. Mohamed Erami, correspondant de RFI, a pu se rendre au poste frontière jordano-syrien.
Ce matin, en me rendant au poste frontalier entre la Jordanie et la Syrie, l'ambiance était totalement différente de celle de la semaine dernière lorsque j'ai franchi la frontière entre la Syrie et la Jordanie, qui était alors déserte. Aujourd'hui, des files de camions s'étendaient sur plusieurs kilomètres. Chauffeurs et commerçants échangeaient des sourires et des gestes de joie, impatients de voir leurs marchandises franchir la frontière. C'était un moment de soulagement vraiment visible. Les poids lourds jordaniens et étrangers circulent désormais librement en Syrie sans avoir à transférer leurs produits d'un camion à l'autre comme cela se faisait auparavant. Le ministre jordanien de l'Industrie a annoncé que le gouvernement syrien intérimaire avait levé l'interdiction sur de nombreux produits et supprimé temporairement les droits de douane sur les camions en provenance de Jordanie. Une décision qui a été accueillie avec enthousiasme par les commerçants et les industriels jordaniens qui étaient impatients de relancer leurs échanges, notamment vers des marchés clés comme le Liban, la Turquie et l'Europe. Dans l'air, il y avait vraiment un véritable sentiment de redémarrage. Abdullah et Mahmoud, deux conducteurs que j'ai pu rencontrer sur place, m'ont confié qu'ils retrouvaient enfin du travail après des années de difficultés. Les frontières qui avaient été fermées pendant des années à cause des tensions sécuritaires sont désormais ouvertes et avec elles l'espoir d'une économie régionale qui reprend son souffle.
Mohamed Erami, et la chute du régime n'est pas une défaite selon Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a estimé aujourd'hui lors de sa conférence de presse annuelle que les objectifs qu'il partageait avec Bachar al-Assad avaient été atteints. Mais il s'est aussi montré prudent sur ses relations avec les nouvelles autorités au pouvoir et l'avenir des bases russes dans le pays.
Nous devons décider nous-mêmes de la forme que prendront nos relations avec les forces politiques qui contrôlent aujourd'hui et contrôleront la situation dans ce pays à l'avenir. Nos intérêts doivent coïncider. Si nous restons là-bas, nous devons aussi agir dans l'intérêt du pays où nous nous trouvons. Quels seront ces intérêts? Ce que nous pouvons faire pour eux? Voilà une question qui attend des recherches minutieuses des deux côtés. Mais nous pouvons déjà, dans l'immédiat, faire quelque chose en utilisant ces bases. Nous l'avons déjà proposé à nos partenaires, notamment à ceux qui se trouvent sur le territoire syrien et aux pays voisins, d'utiliser par exemple la base aérienne de Ain Mimin pour acheminer de l'aide humanitaire en Syrie. Il en va de même pour la base navale de Tartous.
Tout le même concerne aussi la base navale de Tartous.
Vladimir Poutine qui a aussi assuré ne pas avoir vu Bachar al-Assad qui a trouvé refuge en Russie mais indique avoir l'intention de le faire. Toujours au Proche-Orient mais cette fois à Gaza, Human Rights Watch dénonce des actes de génocide. Médecins sans frontières parle de nettoyage ethnique. Accusation dans deux rapports publiés récemment et rejetés par l'armée israélienne. Israël qui a mené aujourd'hui des frappes au Yémen alors que les Houthis ont revendiqué plutôt le tir de deux missiles sur l'État hébreu. En réaction, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a prévenu celui qui frappe Israël paiera un prix très fort. Notez aussi que le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui la mort de 6 personnes tuées au cours d'opérations militaires israéliennes dans les camps de réfugiés de Tul Karem et Balata, en Cisjordanie occupée. Une journée de deuil national en France le 23 décembre annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui a promis de rebâtir Mayotte défigurée par le cyclone Chido il y a 5 jours. Une loi spéciale et un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine et face à l'ampleur des dégâts. Le président arrivé ce matin à Mayotte, y restera finalement jusqu'à demain pour rencontrer notamment les victimes de cette catastrophe qui a fait au moins 31 morts. Des habitants qui, pour certains, ont laissé éclater leur colère.
Monsieur le Président, non mais bonjour, mais ici ça fait 40 ans qu'on nous raconte toujours la même chanson. Quand on nous raconte qu'il y a...
Vous me laissez voir.
Non, vous faites votre déambulation ici au CHM. Non mais c'est pas ça qu'on demande, on vous demande pas de venir nous voir. On souhaite, nous... Non, que très concrètes, ils sont pas arrivés à Ouangani. Ils sont même pas arrivés à Tsunzu. Vous parlez de l'eau, ça arrive pas. Les réponses que vous donnez, ils sont hors plaque. Non mais c'est réalité. Moi je viens de Ouangani, l'eau n'y est pas. Il n'y a aucun service qui est là. Non mais c'est normal. Au bout de 6 jours, après 6 jours, c'est normal. Vous trouvez que c'est normal ça? Non, mais vous, vous n'y êtes pas là-bas. Non, ce qu'on vit sur le territoire, sur le terrain, c'est parce que vous vous racontez dans les médias.
Mais non, je raconte rien de ce que vous dites.
Non, mais si, vous avez dit que les secours sont arrivés, l'eau est arrivée.
Mais non, tout le monde...
non, c'est pas la réalité.
Mais monsieur, j'ai pas dit ça.
Mais si, c'est ce que vous avez dit à la télé.
Si vous voulez pas
m'écouter, dites alors.
Quand je dis les premières livraisons d'eau et d'alimentation sont arrivées au port et à l'aéroport.
6 jours après, monsieur le président, c'est pas normal. 6 jours après, vous n'êtes même pas arrivé à Ouangani.
Et toutes les communes devraient être après approvisionnées en eau et en nourriture d'ici dimanche soir, d'après Emmanuel Macron. Notez aussi que les assurances prendront en charge 650 à 800 millions d'euros de dégâts. La Fondation de France a quant à elle déjà réussi à récolter 14 millions d'euros. Plus de 1000 réservistes de la santé, infirmiers, soignants, ingénieurs se sont de leur côté déclarés volontaires pour partir à Mayotte, d'après le directeur général de la santé aujourd'hui. François Bayrou, lui, souhaite une reconstruction rapide de Mayotte en 2 ans peut-être. C'est ce qu'il a dit ce soir sur le plateau de France 2. L'occasion pour le Premier ministre français de faire un point d'étape sur la nomination de son gouvernement qu'il espère avant Noël. Et un budget d'ici mi-février, après avoir reçu les partis politiques aujourd'hui à Matignon. François Bayrou dit aussi vouloir que Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, reste dans son équipe. La fin d'un procès historique aujourd'hui, celui des viols de Mazan. Dominique Pellicot a écopé de la peine maximale, 20 ans pour avoir drogué sa femme et avoir recruté des hommes sur Internet pour la violer. 50 hommes, tous reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison, comme une onde de choc dans le monde entier qui a fait la une de nombreux quotidiens internationaux. Bonsoir Carlotta Morteo.
Bonsoir Alban, bonsoir à tous.
Certains dirigeants ont même réagi.
Oui, quelle dignité. Merci Gisèle Pellicot, a déclaré sur le réseau social X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à la tête d'un pays qui a adopté l'une des législations les plus progressistes en matière de violences sexuelles, notamment sur la notion de consentement qui était bien sûr au cœur du procès des viols de Mazan. L'Espagne a aussi annoncé qu'un nouveau centre d'accueil pour les femmes victimes de violences va ouvrir et portera le nom de cette icône féministe qui est devenue Gisèle Pellicot, 72 ans, cheveux roux, coupés au carré, mère de famille, détruite à l'intérieur comme elle dit, mais qui a toujours gardé la tête haute. Avec courage, vous êtes sortie de l'anonymat pour vous battre pour la justice, a écrit dans un tweet le chancelier allemand Olaf Scholz. Vous avez donné une voix forte aux femmes du monde entier. Par sa résonance, ce procès a peut-être permis de briser un peu les tabous et les silences sur un fléau, le viol, qui dépasse largement les frontières de la France. Un procès exemplaire pour que la honte change de camp, c'est presque devenu un slogan.
Carlotta Morteo, Dominique Pellicot, qui pourrait faire appel, n'en a pas fini avec la justice. Mise en examen par le pôle Cold Case, il pourrait être jugé pour une tentative de viol en 1999 en Seine-et-Marne, mais aussi pour le viol suivi du meurtre d'une jeune femme de 23 ans en 1991 à Paris. On en vient à ce vaste coup de filet visant un réseau mondial de diffusion d'images pédopornographiques. Sur la messagerie Signal, 95 personnes ont été interpellées en France, des hommes âgés de 16 à 74 ans vivant principalement dans les régions Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Parmi eux, 7 étaient déjà inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Les perquisitions ont permis de découvrir 375 000 photos, 156 000 vidéos. Luigi Mangione, accusé d'avoir tué au début du mois le patron d'une assurance santé en plein Manhattan, va être transféré à New York. Il est le jeune homme de 26 ans. Il sera jugé pour meurtre à dimension terroriste. Il encourt la prison à perpétuité sans libération conditionnelle devant la justice de l'État de New York. Si la justice fédérale le poursuit aussi, il pourrait même être condamné à la peine de mort. Et puis en début de réponse en République démocratique du Congo, après la mort de 37 personnes, la mystérieuse maladie dont elles ont été victimes serait le paludisme. D'après Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine attend néanmoins toujours les résultats d'une enquête pour le confirmer. Il est 22h09 à Paris, 21h09 en temps universel. On se retrouve dans une heure pour un prochain journal.